Donc on va commencer Bezrat Hashem, notre troisième cours sur la lettre 22. En fait, c'est un autre thème, c'est pour ça que même ceux qui n'étaient pas là, les cours précédents sur la lettre 22 ne vont pas être dépaysés, parce que c'est un autre sujet. Là, actuellement, on est dans une période particulière. On est rentré, ça fait quelque temps, dans la période du Homer. Et on sait que la raison pour laquelle on est en deuil pendant le Homer, donc on n'a pas le droit de se raser, etc., on n'a pas le droit d'écouter la musique, c'est parce que on est en deuil sur la mort des élèves de Rabbi Akiva. Et pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont morts? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Tavera tellement grave? Vous imaginez que c'était tous des tzadikim. Alors, non, c'est pas exactement la haine gratuite, attention, ouais, justement. La Gemara a dit pas ça. La Gemara a dit, Shelo Nagu Kavod Zebazé. Parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Et à leur niveau, c'est quelque chose de reprochable. Alors, ça veut dire quoi qu'ils se respectaient pas les uns les autres? Je voudrais développer un peu plus parce que cette introduction va être importante pour comprendre la suite de cette lettre. Le Rabbi l'explique comme ça. Il dit qu'en vérité, c'était quoi l'erreur des élèves de Rabbi Akiva? Imaginez, 24 000 élèves, ils ont tous participé au même cours de Rabbi Akiva. Maintenant, chacun, il a compris ce que Rabbi Akiva dit de sa manière. Puisque vous savez que quand on écoute un cours, on peut écouter tous le même cours. Mais après, à la fin, quand on sort, finalement, on associe ça avec le vécu, avec le psyché, avec des tas de choses, ce qui fait que chacun a compris autre chose. C'est comme ça. D'accord? C'est comme ça. Et les élèves de Rabbi Akiva, en vérité, ce qu'explique le Rabbi, c'est qu'a priori, ils avaient un tel amour du prochain, que quand il voyait que son ami n'a pas compris comme lui, il a compris les paroles de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, on sort du cours, voilà, imaginez, on sort du cours de Rabbi Akiva. Je demande à David, je lui dis, alors comment t'as compris ce que Rabbi Akiva a dit? D'accord? Et il me dit, moi j'ai compris comme ça ce que Rabbi Akiva a dit. Moi, je lui dis, non, t'as rien compris, c'est pas ça ce que Rabbi Akiva a dit. Rabbi Akiva a dit ça et ça. Et moi, je vais t'expliquer. On peut rester des heures à se disputer, mais c'est une bonne dispute. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est quand à un certain moment après, ça bifurque à l'onagou kavod zebazé, c'est-à-dire qu'après, il y a un manque de respect. D'accord? Quand il y a un manque de respect, là, ça devient problématique. Mais il ne faut pas faire l'erreur de penser que ce manque de respect est venu parce qu'ils s'écrasaient les uns les autres. À la base, c'est parti d'une bonne intention. Seulement, c'est ça le message que nous apprend, justement, le Homer. On nous apprend que même quand on est accroché, a priori, même quand on n'est pas d'accord idéologiquement avec une autre personne, ça peut arriver. D'accord? Et au contraire, c'est normal que ça arrive. Parce que si ça arrive pas, c'est-à-dire que j'ai pas d'approche personnelle. Ça doit arriver, des choses comme ça. Mais jamais on doit arriver à une situation dans laquelle il y a un manque de respect. Jamais. Dès qu'on arrive là, ça veut dire qu'on a dépassé une ligne rouge et tout de suite, il faut revenir en arrière.
Il n'y a pas une cause un peu plus profonde.
Mais comment les... Ça, non, non, comment ça se passe? Les maîtres, ils n'ont pas vu ça et ils n'ont pas stoppé parce que c'était tous les élèves.
Les maîtres, ils ont vu ça arriver, d'accord? Ils ont essayé de stopper. En plus, je vais vous dire, ce n'est pas seulement ça. C'est que c'était les élèves de qui? C'était les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit comme ça, il dit « Ve'avta l'erecha kamocha, zeklal gadol batora ». C'est-à-dire, une des phrases que Rabbi Akiva le répétait le plus dans sa vie, qu'il enseignait le plus à ses élèves, il leur disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une grande base de la Torah. Vous savez, chacun, il a ses choses sur lesquelles il répète. Ouais. Et les élèves de Rabbi Akiva, ils sont plantés sur ça.
C'est pour ça que c'est un peu bizarre.
D'accord? Alors, c'est ça ce qu'on a expliqué. C'est qu'en vérité, c'est pas parce qu'une mauvaise intention. En vérité, quelque part, le fait que chacun essaye de convaincre l'autre, c'est une preuve qu'il n'y a pas d'indifférence. Parce qu'imaginez si c'était 24 000 élèves, que chacun est dans son coin, il n'en a rien à faire ce qu'il fait l'autre. Ben, il dit, écoute, t'as compris comme tu veux, moi que j'en ai à faire, moi j'ai compris, c'est ce qui compte. Alors qu'il n'était pas comme ça. Il disait, non, je veux que tu comprennes la vérité. C'était la bataille pour la vérité. Mais le problème, c'est qu'après, par certains moments, il y a eu un manque de respect. Et à leur niveau, qui était des tzadikim, que c'était leur seul chose qu'on pouvait leur reprocher, à leur niveau, c'était une avéra qui était très grave. D'accord, donc c'est par miracle si aujourd'hui on peut étudier la Torah. Vous savez que les 24 000, Rabbi Akiva avait exactement 24 000 005 élèves. Voilà, c'était pile le nombre qu'il avait. 005, voilà, pile. Et donc il avait 24 000 005 élèves. Et on dit que le savoir du Ham Israël était chez eux. C'est-à-dire que c'était la yeshiva principale. D'ailleurs, c'est une erreur qu'on a fait d'ailleurs. Vous savez, on dit on met jamais tous ses œufs dans le même panier. Mais bon, malheureusement, c'est ce qui s'est passé, c'est que tout le savoir du Ham Israël était dans cette yeshiva. C'est-à-dire qu'il y avait un tel savoir chez Rabbi Akiva que les élèves, ils ont quitté toutes les yeshivotes pour venir chez Rabbi Akiva. Donc, si tout le monde mourait, ça veut dire que il reste rien. Rabbi Akiva, il était déjà vieux, il pouvait plus former encore. Oh là là.
Tout ça pour me tuer.
Ah, c'est pas fini?
Il y a l'entrée.
Bon, je finis l'introduction, on attend Mickaël. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce que nous on apprend, ce que nous on nous apprend de tout ça, on nous apprend de tout ça. Hein, c'est pour vous.
Du piment. Hein, pour pimenter le cours.
T'as mis la bourra?
Bah oui.
Ah d'accord, pas la vodka quand même.
Ça passait
ouais. Le piment. Et ça c'est le chidouche. Ça c'est une première chose que je voulais vous parler. Deuxième introduction avant même qu'on rentre dans le texte. Aujourd'hui chez les Chassidim Chabad, c'est une date particulière, le 28 Nissan. Pourquoi? Le 28 Nissan en 91, donc ça fait quand même 22 ans d'aujourd'hui, c'était une date qui a marqué les chassidim. Donc c'était un peu moins d'un an avant que le rabbi ait son attaque, d'accord? Et le rabbi, une fois comme ça, il a rassemblé les chassidim, donc c'était en plein milieu de semaine, hein, c'était un jour, le 28 Nissan, c'était en plein milieu de semaine. Et il a parlé pendant 10 minutes, mais c'était 10 minutes très costaud. Qu'est-ce qu'il a dit pendant ces 10 minutes? Le rabbi, il a commencé, entre guillemets, à se plaindre. Il a dit, ça fait des années qu'on parle de Mashiach. D'accord? J'arrête pas de supplier à Kadosh Baruch Hu qu'il envoie Mashiach. J'arrête pas de faire tout ce que je peux pour que Mashiach revienne. Et Mashiach n'est pas encore là. Et le rabbi a dit une phrase très très dure à ce moment-là. Il a dit, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est pour rien. On n'a jamais entendu des mots comme ça chez le rabbi. D'ailleurs, même les chassidim étaient très choqués.
Tout ce que je fais, c'est pour rien.
Oui, il a employé des mots comme ça. D'accord? Non, alors, écoutez la suite. Qu'est-ce qu'a dit le rabbi? Le rabbi dit dorénavant, que je suis arrivé à la conclusion que je suis obligé de vous remettre la chose entre les mains. À vous, les chassidim. Et une phrase qui est devenue très célèbre, il a dit dorénavant, je vous demande, Asu kol asher biyocholtechem, faites tout ce qui est en votre possible pour amener Mashiach. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est le 28 Nissan. Jusqu'au 28 Nissan, 5751-1991, les chassidim, ils partaient toujours de la base que nous, on fait ce que le rabbi demande, mais c'est le rabbi qui se débrouille. Je veux dire, nous, on n'est pas là.
Ouais, c'est lui le maître.
D'accord? C'est lui le maître, c'est lui le chef. Ouais. Et là, il y a eu un chidouche. Il y a eu un changement de parcours, si on peut appeler ça comme ça. Le rabbi, il a dit dorénavant, s'il faut plus, attendre de moi, que c'est moi qui va négocier, entre guillemets, qui va supplier à Kadosh Baruch Hu de Mashiach. C'est à vous de le faire. Puisque moi, apparemment, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Voilà, il a dit comme ça. Il a dit, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ça veut dire, pour qu'un tzaddik qui dit ça, c'est que vraiment, c'est quelque chose de très très fort. C'est très très fort. C'est des mots qu'on n'a jamais entendus. Vous savez, le rabbi, il a parlé plusieurs dizaines de milliers d'heures. Plusieurs dizaines de... Et des mots comme ça, 10 minutes comme ça, on n'a jamais entendu. Les chassidim étaient très choqués.
C'était l'année où il y a eu la guerre du Golfe. Il a beaucoup.
Toute la nuit, les chassidim, ils passaient à re-écouter l'enregistrement pour comprendre qu'est-ce qu'a dit le rabbi. Et jusqu'aujourd'hui encore, on n'a pas compris à 100% ce que le rabbi voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que c'est pas par hasard, donc c'est deux événements qu'on va essayer de parler de ça aujourd'hui, justement dans la lettre qu'on va étudier aujourd'hui. Numéro 1, la Ahavat Israël, l'amour du prochain, autour du Homer. Ça c'est le premier point qu'on va développer. Et le deuxième point qu'on va développer aujourd'hui, c'est aussi le fait que finalement, si on veut que Mashiach arrive, ça dépend de nous, ça dépend de notre Ahavat Israël les uns envers les autres, et c'est pas les tzadikim qui feront le boulot à notre place. Voilà, sur ce, maintenant, je marque une petite pause, et on va à ce motif, je te pose. Bon, là, il faut faire motif. Après l'introduction qu'on a fait, on va parler maintenant, on est dans la deuxième, on est dans la troisième partie de la lettre 22. Dans la première partie de la lettre 22, vous vous rappelez, je pense que c'était avant Pessah, je vais rappeler rapidement, on avait expliqué que l'Admour Hazaken se plaignait que les chassidim venaient lui demander les questions matérielles. Vous vous rappelez? Et donc, l'Admour Hazaken avait expliqué longuement que normalement, on devrait avoir la Emouna, que tout ce qui nous vient est d'Akadosh Baruch Hu, et que de quel droit on va avoir un tzaddik, qu'est-ce qu'on croit déjà que le tzaddik va changer. Mais on a expliqué quand même que quoi qu'il en soit, on va quand même demander au tzaddikim parce qu'on est des générations faibles et des générations qui n'arrivent pas à arriver à ces conclusions de nous-mêmes. Donc, on a besoin des fois d'un tzaddik pour nous dire ça vient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Maintenant, on va passer à la suite. Je suis à Haouvaï, page 269. Haouvaï, Achai Verehai. Donc, l'Admour Hazaken s'adresse aux chassidim, il leur dit, mes bien-aimés, mes frères et mes amis. Mes godel tardati, asher ikifu ala yachad. Donc, je suis dernièrement très occupé. Vesabuni kamaim kol ayom, vechol alala tamil lo yecheshu. L'Admour Hazaken dit aux chassidim, il dit, écoutez, il y a un problème qui me préoccupe beaucoup dernièrement, qui me préoccupe le jour et la nuit. Vous savez, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui nous préoccupent le jour, mais on arrive à dormir. Quand un problème te préoccupe le jour et la nuit, c'est-à-dire que c'est un problème qui te dérange vraiment beaucoup. Et donc l'Admour Hazaken dit au chassidim, je vais vous parler de deux choses maintenant, deux choses qui le dérangent beaucoup, qu'il a vu chez les chassidim. Qu'au début l'Admour Hazaken a préféré ne pas parler, parce qu'il s'est dit que peut-être certainement le problème allait s'arranger avec le temps, ou peut-être qu'il fallait laisser le temps au temps. Mais il dit, écoutez, j'ai décidé finalement d'en parler. C'est quoi? Il dit, c'est quelque chose, je n'arrive pas à dormir, ça ne me laisse pas tranquille, avec tous les soucis que j'ai, c'est quelque chose qui ne me lâche pas, ça me dérange beaucoup. Le uchal malet massa, je n'arrive pas à me retenir. Les morts, il m'a sait faire que la chair bilvavi. Il dit, écoutez, je pourrais pas tout vous dire ce que j'ai dans mon cœur, mais je vais au moins vous dire en deux mots ce que je ressens. Et après, vous allez comprendre. Donc vous allez comprendre avec ça qu'est-ce qui dérangeait l'Admour Hazaken. Il va parler de deux choses. Il va parler de la kavana dans la tfila, comme on va développer. Il s'est rendu compte qu'à certains moments, il y avait un manque de kavana dans la tfila. Il n'y avait pas cette kavana dans la tfila, donc on va développer. il va dire ce qu'il a vu et ce qu'il attend. Et avec ça, tout ça, c'est en quelques lignes, parce qu'il dit clairement, il dit que je veux pas vous dire tout ce que je pense, mais au moins je vais vous dire en deux mots. Et la deuxième chose qu'il a vu chez les chassidim, c'est que des fois il y avait un manque de Havat Israël. Un manque d'amour du prochain. Et donc au début, il parlait pas, parce qu'il disait, bon, on va laisser les champs. Un tzadik, il aime pas comme ça taper sur ses chassidim. Mais il dit, écoutez, j'ai pas eu le choix, je suis obligé de vous parler. Et là, on va voir, c'est une lettre très intéressante, parce que surtout, c'est un rapport avec le Homer, un rapport avec la période dans laquelle on se trouve. Donc, Ar Biktara, je vais essayer au moins en quelques lignes, Batik et Maskir ou Machazir à la Rishonot Bichlal, ou Bifrat à la Mitnadvim Ba'am. Je vais m'adresser à vous. Il y a des choses que je vais répéter, d'accord? Mais surtout, je vais m'adresser à la Mitnadvim Ba'am, ça veut dire à ceux, la Mitnadvim Ba'am, aux volontaires. C'est quoi les volontaires? Ceux que l'Admor Hazaken appelait les volontaires. C'est ceux qui se donnaient pour la Avodat Atfila, pour le travail de la Tfila. J'explique ce que ça veut dire. Bien sûr qu'on parle ici de gens qui font la Tfila. Ça va de soi, tout le monde fait la Tfila, il n'y a pas besoin de le dire. Seulement, l'Admor Hazaken, une des premières choses qu'il avait imposées à ses chassidim, il avait dit qu'il faut que dans chaque communauté, il y ait quelques personnes qui fassent une Tfila plus longue que les autres. Qui mettent leur kavana dans la Tfila, et qu'on sache que normalement, une Tfila normale devait être comme ça. Vous me suivez? Ça veut dire qu'il avait imposé que dans chaque communauté, il doit avoir comme une sorte, en tout cas c'était comme ça que c'était en Russie, en Ukraine, il y avait comme une sorte de kollel, d'accord? Et ces gens-là, comme une sorte de kollel, il y avait 5-10 personnes, d'accord? Ça dépendait de communautés. Et ces gens-là, on leur demandait de venir bien sûr très tôt le matin, bien sûr pour étudier. Et après, c'est des gens que l'Admor Hazaken les avait entraînés, si on peut appeler ça comme ça, pour faire une tfila très longue. Parce que pour l'Admor Hazaken, pour bien étudier, t'es obligé de faire une bonne tfila. C'est indissociable. On peut pas,
étudier, d'accord? C'est pas l'inverse?
C'est les deux. Pour bien étudier, il faut faire une bonne tfila. Pour faire une bonne tfila, il faut bien étudier. Il faut faire les deux en même temps. Et donc, il dit, l'Admor Hazaken, je me suis rendu compte que je m'adresse particulièrement aux gens de qui on s'attendait qu'ils soient des exemples. D'accord? Je m'adresse particulièrement aux gens de qui on s'attendait qu'ils soient des exemples et qui montrent l'exemple, comment on doit faire la tfila. La mod à la avoda zot fila. Alors bon, nous, quand on lit cette lettre, on se dit, mais nous, déjà qu'on fasse toute la tfila avec bien les mots, etc., c'est déjà très bien. Mais on va voir au passage que l'Admor Hazaken, comment l'Admor Hazaken voit la tfila. Donc, zot fila bekolram. Il va nous donner des techniques. Finalement, il dit, qu'est-ce que je me suis rendu compte? Je me suis rendu compte que ces chassidim-là, qui font la tfila, ils ont de la kavana, mais après, à un certain moment, leur esprit, il s'en va. Ça nous arrive à tous. D'accord? C'est l'esprit humain. Et donc, l'Admor Hazaken, il dit, bon, au début, je dis rien, parce que bon, je me dis, il faut les laisser se développer, etc. Mais après, tu vois, avec le temps, plus le temps il avance, et plus on voit que le problème ne se règle pas. Alors, il va nous donner des techniques maintenant. Il va nous donner des techniques, comment réussir à avoir la kavana dans la tfila. Regardez la première technique qu'il va nous donner. Première technique, c'est Bekol Ram. La tfila, il faut la faire à voix haute. Pourquoi? Parce que c'est écrit que Kol met horaire à kavana. La voix, ça éveille la kavana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait la tfila à voix basse, on chuchote. Alors, c'est très difficile à se concentrer. Mais quand on fait à voix haute, ça nous aide à nous concentrer. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment on peut retrouver ça dans le mal et donc à plus forte raison qu'on trouve ça dans le bien. Regardez. On avait donné une fois cet exemple. Imaginez une personne qui s'énerve dans la tête. D'accord? Mais il n'en parle pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par se calmer. Mais s'il se met maintenant à crier, ça veut dire la personne contre qui il est énervé, il se met à hurler. Qu'est-ce qui va se passer?
Ça continue.
Pourquoi? Parce que c'est un principe que Dieu a mis dans la nature, que Kol met horaire à Kavana. La voix, d'accord? Quand tu dis quelque chose à voix haute, eh ben, ça éveille la Kavana, ça veut dire que tu es plus à fond dans ce que tu fais quand tu le dis à voix haute. Donc il dit première chose.
Mais dans la prière, d'accord. On peut pas.
Alors ça dépend. Ah bah, oui, quand je dis à voix haute, c'est pas crier.
On a dit s'entendre, normalement dans la prière, tu dois t'entendre.
Je parle pas de l'amidah là. Je parle de la tfila en général. La tfila en général. Tu fais la tfila en général. Le schéma, tout le reste des autres parties de la tfila. Il te dit que. Alors moi, c'est vrai que dans le monde séfarade, on a trouvé la solution, c'est que dans le monde séfarade, tout le monde chante en même temps. D'accord? Donc la solution, c'est que tout le monde fait à voix haute. Bon, c'est une solution. Dans le monde ashkenaz, c'était pas comme ça. Je sais pas si vous avez, j'ai pris la synagogue ashkenaz. Synagogue ashkenaz, c'est silence, hein?
Chacun à fond. Tout le monde à fond et pour soi.
Attends, c'est chacun sa.
Mais c'est comme
schéma.
Ça.
Il n'y a plus personne, et après, on va émettre.
Ben, c'est comme ça, les synagogues ashkenazes, c'était comme ça. Il faut savoir que c'est une invention sfarade, ça. Les chayim. Parce que c'était pas comme ça, à l'époque. À l'époque de la Gemara, il n'y a pas de source qui dit qu'on chantait. On chantait les mizmorim. Il n'y a pas. Les gens, ils disaient, chacun, ils disaient.
Il y a une source qui dit que tout le monde disait à voix haute, tout ensemble. Comment tu veux faire? tout le monde à voix haute. Là.
Alors voilà, c'est quoi la technique? C'est quoi la technique?
Il y en a qui parlent plus fort que d'autres.
Donc l'Admon Razaken a une première technique. Bon, quand on est à voix haute, ça veut dire, ça veut pas dire crier, ça veut dire ne pas parler dans sa barbe. D'accord? Hein? Non, il veut réveiller la Kavana. Donc, la mode à la voda zotfila, bekol ram, la tfila, il faut la faire à voix haute. Leit razek, beod, bechol, oz veta atsumot, neged kolmonia mibayt ou mechutz. Alors Marcel, il a fait une bonne remarque, il a dit qu'on sait que l'amida, on n'a pas le droit de la faire à voix haute. Vous savez que l'amida, on n'a pas le droit de la faire à voix haute. Il y a une marloquette entre les poskim et les mekoubalim, à savoir, est-ce qu'on a le droit même de s'entendre? Les mekoubalim, ils disent que normalement, on n'a pas le droit de s'entendre. Et les poskim disent qu'il faut au moins que les oreilles entendent ce qu'on dit. Mais ça veut dire, c'est clair que l'amida, on n'a pas le droit de la faire à voix haute, sauf, il y a une exception. Vous savez, c'est quand l'exception? Il y a une seule période dans l'année où on aura de faire l'amida à voix haute. C'est quand on approche des yamim noraim. C'est-à-dire le mois des louls. D'accord? Donc, les mois où on fait les slichot. Rosh Hashanah et Kippour, que là, on a le droit de faire l'amida à voix haute. Pourquoi? Parce que comme on doit avoir plus de kavana, alors là, les chachamim ont permis toutes les techniques qu'il faut pour faire un voix haute. Et est-ce que vous savez pourquoi toute l'année on n'a pas le droit de faire l'amida à voix haute? Pour pas déranger ceux qui sont à côté.
Bah oui, pour pas déranger le...
C'est pour ça que quand t'es seul, c'est moutard. Non, t'as le droit d'hurler tamida. Tu peux hurler tamida.
C'est vrai?
Ouais. Mais du coup, maintenant, le Zohar, il dit que l'amida, mis à part le fait qu'on ne dérange pas les autres, il y a une notion que l'amida, c'est la voix du cœur. La voix du cœur, c'est une voix qui ne s'entend pas.
Comme on dit aussi que pour l'amida, on est en fait en face de Dieu.
Oui.
J'ai l'impression que si je le disais fort, j'aurais pas cette impression d'être... Le fait d'être en recueillement...
C'est ce que le Zohar dit. Le Zohar dit c'est la voix du cœur. Il dit la voix du cœur, c'est plus fort que la voix de la bouche. La voix du cœur, c'est quelque chose qui est très profond. Mais d'un autre côté, voilà, comme je vous dis, il y a des gens qui ont besoin de parler à voix haute. On raconte, la Gemara, elle raconte, par exemple, il y avait un rav qui s'appelait Ravuna. Et Ravuna, lui, de temps en temps, il priait chez lui à la maison. Il faisait exprès de pas prier en minyan. Pourquoi? Parce qu'il voulait enseigner à ses enfants comment on fait l'amida. À l'époque, il n'y avait pas les sidourines comme aujourd'hui. Mais à la synagogue, il pouvait pas, parce qu'il peut pas déranger les autres. Alors, de temps en temps, il restait faire la prière chez lui à la maison, et il faisait sa amida à voix haute. Et comme ça, ses enfants, ils retenaient. Donc, c'est de lui qu'on apprend que quand on est à la maison, on a le droit. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Morazaken dit que ça, c'est une technique. Faire l'amida à voix haute, c'est une technique. Enfin, la tefila, pardon, en général, à voix haute, c'est une technique. Leid gaber me'od, bechol os veta atsumot, neged kol monea, beyat chazaka kemashmao. Et là, Morazaken dit, je sais que quand on fait l'amida, le yetzerara, il vient pour nous embêter de l'intérieur et de l'extérieur. Ça, c'est très intéressant ce qu'il dit ici. Ça veut dire que, on le remarque ça de toute façon, quand on fait l'amida, qu'est-ce qui vient nous déranger finalement? Tout. D'abord, tu as des cavanotes intérieures. Mmh. C'est-à-dire par exemple, tu vas penser aux affaires, à ce que tu as fait avant, à ce que tu vas faire après. Ça c'est mibay, c'est de l'intérieur. Mais de l'extérieur aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout ce qui peut te distraire arrive au moment où tu es en train de faire ta amida. Quelqu'un qui passe, un bruit, tout ce qui... Mihoutz. Et ça c'est le Yetzirah qui fait exprès. Parce que le Yetzirah, il sait que dès qu'il arrive à te distraire de ta amida, il a gagné. Et ça, le Morazaken, il s'adresse même aux grands chassidis, même ceux qui priaient comme ça pendant des heures. Vous savez qu'il y avait des chassidis, des fois, qui priaient pendant 4-5 heures. Ils passaient des heures, chaque mot, la kavana, ils réfléchissaient. Et même des gens comme ça, il dit que quand on fait pas la tefila à voix haute, et ben après, l'esprit s'en va, et on peut être distrait et par les kavanotes intérieures, c'est-à-dire on se met à penser à d'autres choses, et mibachutz, ça veut dire, et par des choses extérieures, toutes sortes de distractions. Et il dit ici, shehu, Retson Yireav, Asher, le Malamina Chochma Vadvuna, Asher Natan Hashem Baema, la Daat, la Sot, et Kol Asher Tziva Hashem, Beaskel Vadaat. Qu'est-ce qu'on dit au début de l'Amida? Une des premières brachas de l'Amida, c'est on dit Atachonen le Adam Daat. C'est la première bracha de l'Amida. Parce que les brachot qu'il y a avant, c'est des introductions. C'est l'introduction dans laquelle on remercie, dans laquelle on rappelle les mérites des patriarches, etc. Mais quand on commence à demander les demandes, c'est la bracha d'Atachonen. Atachonen le Adam Daat. Qu'est-ce qu'on dit dans cette bracha Tachonel Adam Daat? On dit à Kadosh Baruch Hu que à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne à la personne Daat la connaissance. Ça veut dire que ce qu'il veut te dire ici, c'est qu'en vérité, quand t'as des choses qui te dérangent pendant la Mida quelque part, c'est à Kadosh Baruch Hu qui les envoie. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit Atachonel le Adam Daat. C'est qui Ata? Ata c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui donne à l'homme la connaissance. Ça veut dire que qui c'est qui gère notre cerveau? Qui c'est qui? Tu crois que les distractions arrivent tout seul? C'est à Kadosh Baruch Hu qui fait comme ça. Alors comment j'ai fait pour combattre ces pensées qui peuvent venir me déranger? Vous allez comprendre tout de suite où vous en arrivez. Il dit Rak ratzon pashut ve ruach nediva bechol ish asher idevenu libo la sot avodat tama la sot nachad ruach le yotzro. Voilà, c'est quelque chose de très très intéressant ce qu'il dit ici. Il dit que quand on voit que Akadosh Baruch Hu, suite à la faute du Vaudor, il a reproché au Bnei Israël, il a dit « Ki am kshe oref hu ». C'est un peuple qui est têtu. Alors têtu dans le sens quoi? Comment on comprend? Ben dans le sens que c'est un peuple qui n'arrête pas. Ça veut dire il fait une faute, il s'excuse, après il recommence, il est têtu. C'est quoi quelqu'un qui est têtu? Quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Donc nous en général, quand on lit ce passouk-là qui am kshe oref, qu'on dit que les Bnei Israël c'est un peuple qui est têtu, on le comprend dans un sens péjoratif, dans un sens négatif, que les Bnei Israël c'est un peuple têtu. Comme ça nous on comprend ça. D'accord? Non. Alors justement, ce qu'il dit ici, il dit en vérité le Zohar, il ramène le Zohar, que le Zohar il dit qu'on a mal compris, que quand on dit que le peuple juif c'est un peuple têtu, c'est pas un défaut. Là, à ce moment-là, bien sûr, c'est un défaut. Pour les Averot, c'est un défaut. À ce moment-là, quand on n'arrête pas de faire d'Averot, c'est un défaut. Mais en vérité, c'est une qualité qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. C'est quoi la qualité? C'est une qualité qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée qu'un juif, quand il veut quelque chose, il finira par y arriver. Même si c'est pas logique. Et le Zohar a dit des mots très 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 beaux sur ça. Il dit, si le Ham Israël a pu tenir tellement de temps, c'est grâce à ça. Parce qu'il est têtu. Comment il tient? Il y a tellement de choses qui l'embêtent, tellement, comment il tient? D'accord? Non, juste, mais comment Akadosh Baruch Hu l'a fait? Le Zohar, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en nous une qualité, les juifs, qu'on est têtu. Et quelqu'un qui est têtu, il finira par avoir ce qu'il veut. C'est comme ça. Tu peux rien faire. Alors, il dit comme ça. Il dit, cette personne-là qui veut faire sa Amida. Et que le pauvre, il arrive pas. Ça fait depuis sa naissance qu'il fait l'Amida. Et chaque fois, tous les matins, il commence l'Amida, ça commence bien, et après, ça part en vrille. Il dit, attends, ça y est. Tu te vois bien, logiquement, c'est pas pour moi. Je veux dire, bon, je vais bien lire ton texte, mais jamais j'aurai des cavaliers comme il faut. Qu'est-ce qu'il te dit, l'Admor Hazaken? Il te dit, si c'était pas un juif, on lui aurait dit, tu as raison. Ça y est, à un moment, tu dis, écoute, basta, c'est pas pour toi, change de registre. Mais comme un juif, il est têtu, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit, on lâche pas. Tu vas essayer, tu finiras par arriver. Ça sera pas toi, ce sera tes enfants. Ce sera pas tes enfants, ce sera tes petits-enfants. Tu arriveras. C'est l'abnégation. Oui, mais ça veut dire, c'est ici, il lit ça à la qualité du ratson. Le ratson, c'est la volonté. On avait fait un cours une fois sur ça, ça fait quelques mois. On avait expliqué que la volonté, c'est ce qu'il y a de plus fort chez une personne. Quand une personne veut quelque chose, quand il le veut vraiment, tu peux rien faire.
Dans le bien,
d'accord, dans le bien et dans le mal, bien sûr.
Ben oui.
Donc c'est ça, les Bnei Israël. C'est-à-dire les Bnei Israël, dans leur tête, ils avaient un truc, ils n'étaient pas à l'aise, d'accord, ils ne voulaient pas trop sortir d'Égypte, etc. Ça ne les a pas lâchés. Et chaque fois, ils se plaignaient. Et c'est comme ça. Et après, ils se plaignent. Mais c'est une qualité, en vérité, que Kadosh Baruch Hu nous a donnée. « Ve'alze ne'emar » Et sur ça, c'est écrit « Ki am k'she'oref hu ve'salarta » Sur ça, c'est écrit que Kadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, il dit « Ki am k'she'oref hu ve'salarta » C'est un peuple qui a été tué. Et donc, Vesalarta, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, tu dois leur pardonner. Qui a slichai gamken le malamina chorma, qui sha'alou la chorma. Alors oui, ça c'est aussi un autre sujet très intéressant. Il dit en vérité, vous allez comprendre après comment tous les éléments du puzzle se rejoignent. Il raconte comme ça. Il dit que, après la faute du Vaudor, on a posé, Dieu il a fait un sondage dans le ciel. Pour savoir est-ce qu'il fallait pardonner ou pas. Il a fait un sondage, comme ça raconte le Midrash. Et il a posé la question. Il a posé la question, d'abord, à la Mida Tadine, à la Mida qui représente la justice. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses? Quelqu'un qui a fauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la Mida Tadine a répondu, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il faut punir, il faut juger. Ok. Ensuite, à Kadosh Baruch Hu, il est parti demander à la Torah. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire si une personne a fauté? Il est parti demander à la Torah. Alors la Torah a répondu, elle a dit, ben voilà, c'est écrit dans la Torah que celui qui a fauté, il doit amener un corban, il doit amener un sacrifice. Ensuite, à Kadosh Baruch Hu, il est parti demander aux anges. Il a dit, d'après vous, qu'est-ce qu'on fait quand un juif il a fauté? Comment on fait? Alors les anges, ils ont dit, eh ben, il fera teshuva. D'accord? Et qu'est-ce qu'a tranché à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu a dit, Elu va Elu Omrim, Ashre Mishel Ochata, heureux est celui qui a pas fauté, ou Mishechata est celui qui a fauté, Yashu Veimcholo qui revienne et qu'on lui pardonnera. Maintenant, ce que ramène ici du Zohar, hein, le Zohar dit quelque chose de très fort. Il dit en vérité, à Kadosh Baruch Hu, il nous pardonne même quand c'est pas logique. Ça veut dire combien tu peux pardonner déjà? Une fois, deux fois, trois fois. La personne, tous les jours, il te fait la même gaffe. Quand tu lui dis, écoute, on va arrêter ce petit jeu. À quoi tu joues là? Le matin, tu demandes pardon, le soir, tu recommences la faute, et le matin, tu demandes pardon. À quoi on joue? C'est n'importe quoi. Et il explique comme ça. Il dit, en vérité, de quel droit on se permet de demander à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner de manière abusive? Parce que nous aussi, avec notre Yetzer Hara, on se comporte de manière abusive. Nous aussi, on insiste, bien qu'a priori, logiquement, c'est pas pour nous. Il dit, c'est pour ça que comme nous, on abuse, et on force pour se dire, peut-être qu'un jour j'y arriverai. Alors c'est pour ça qu'on se permet de dire à Kadosh Baruch Hu, on dit, écoute, à Kadosh Baruch Hu, t'as vu que moi, je le fais pour moi aussi. Je me force, même que je vois que c'est pas pour moi. Alors toi aussi, pardonne-moi, même si tu vois que j'arrête pas de fauter. Et donc, quelle est l'image qu'il veut amener ici avec Saladon Razaken? Il va amener l'image, en d'autres termes, il s'adresse à ces chassidim qui apparemment n'ont pas osé se plaindre, mais ils comprennent ce qu'ils ont dans leur tête et qui disent, écoute, tu nous as dit d'être ceux qui vont être à la synagogue, d'être les représentants et d'être ceux qui vont faire la tefila pendant des heures et des heures. On essaye, mais ça rentre pas, on n'arrive pas, c'est trop dur. On n'arrive pas, la tête elle s'en va. Qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur dit, sachez qu'avec la volonté, on peut arriver à tout. Vous allez essayer et vous allez réussir. Et d'ailleurs, dans la suite de l'histoire du chassidisme, on raconte que de ces chassidimes qui restaient comme ça dans les communautés, c'est devenu des chassidimes énormes que eux-mêmes après, ils ont été installés dans des villes et ils ont fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que, ratson, la volonté. Quand une personne a la volonté, rien ne pourra le retenir. Ça, c'était juste en quelques mots. D'accord? C'était la première chose que l'Admor HaZaken voulait dire au chassidim, l'importance de la tefila. Je pense que nous, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? C'est d'essayer au moins d'avoir la kavana, du sens des mots quand on fait la Amida. Et que même si, concrètement, tu essayes, tu arrives sur une bracha, deux brachot, trois brachot, et après le cerveau, il s'en va. D'accord? C'est pas grave. Le ratson, quelqu'un qui veut quelque chose, il finira par l'avoir. Vous savez, j'ai entendu un cours récemment, que j'écoute les enregistrements de, vous savez, quand on va à New York pour le Kinous HaShluchim, il y a des dizaines de cours en parallèle, donc on ne peut pas assister à tous les cours. Donc j'assiste à quelques cours, et après le reste, on a les enregistrements. Ils nous les envoient, on les télécharge par Internet. Donc pratiquement toute l'année, je les écoute, les enregistrements des plusieurs centaines d'heures de cours. Et dans un cours, il y a un rav qui avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il a dit comme ça. Il a dit qu'ils ont fait un sondage, ils ont vu qu'aux États-Unis, tous ceux qui sont devenus présidents, lorsqu'ils étaient jeunes, il parlait à leur entourage, il leur disait « Un jour, je deviendrai président. » Tous. Mais maintenant, même des gars qui n'étaient aucun rapport, comme Obama par exemple, il marchait mot. C'est-à-dire ces gens qui n'ont aucun rapport entre lui et la présidence. Mais quand il était jeune... Pourquoi il marchait mot? Ah, rien du tout.
Alors... Ça veut dire aussi ceux qui l'ont dit et qui ne sont jamais arrivés.
Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens, d'accord? C'est des gens que depuis qu'ils étaient jeunes, ils ont dit on va le faire. Et ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont eu un ratson, ils ont eu une volonté. Et quand une personne a la volonté, ça veut dire qu'il a un but. Et tant qu'il n'est pas arrivé à son but, il lâche pas le but. Et ben il y arrivera. Il y arrivera. D'accord? C'est que tu voulais pas vraiment. Ouais. Qui c'est? Il a dit?
Il a dit en 1990 qu'il se présenterait la
présidence. Oui, mais est-ce qu'il le veut vraiment? Quelque chose qu'on veut vraiment, on finit par y arriver.
Tous les politiques, ils le veulent.
Non.
Tous,
ils le disent qu'ils veulent. Est-ce qu'ils le veulent vraiment? Ça, c'est la première chose qu'il dit là de Morazaken. Première chose qu'il dit là de Morazaken, il dit. D'accord? Donc, première chose que demande l'Admor HaZaken au Chassidim, il leur dit, écoutez, essayez, même une fois, même deux fois, essayez, vous finirez par y arriver. Vous savez, je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. Une fois, oui, il disait,
ouais. Il est resté petit, il est
resté petit. Il a dit, qui l'aurait cru?
Même lui, il croit. Il y a un président normal.
On sait. Donc, du coup, je m'avais oublié ce que je voulais dire. C'est un truc intéressant en plus.
Tu parlais
d'Obama.
Les histoires, c'est un peu
cool. Ah non, il y avait un truc. Oublie, ça me revient. Demain, c'est un truc intéressant.
C'est avec la volonté que quelqu'un voulait, s'il le veut, absolument, il va obtenir.
Vas-y, fais une petite pause, on veut partager.
Parce qu'il marchait mal, parce qu'il veut notre mal. Quoi, ça ferait les mesures.
Écoute, s'il veut notre mal, c'est lui qui va prendre dans la gueule, c'est pas grave.
Moi, j'ai oublié ce que vous voulez. C'est un truc intéressant.
Un président n'a aucun pouvoir, de toute façon.
Un président?
Il n'a aucun pouvoir. Il a juste celui qui lui met là pour qu'il fasse ce qu'il a à faire.
Il voulait devenir président, il sera président.
Il faut une
volonté. Oui.
Okay.
C'est tout?
Ouais.
Pour les présidents,
chef d'État,
Oui. Moi, je parle de la notion que quand on veut quelque chose, ce qu'on veut, on finira par l'avoir. C'est comme ça. Et donc, ah oui, voilà, je vais vous raconter. Une fois. Il y a quelqu'un qui est venu voir l'Admor HaZaken, un grand rave, un rave lituanien, qui n'aimait pas trop les chassidim. Il est venu voir l'Admor HaZaken, il lui a dit, écoutez, j'ai un problème, j'ai une question à vous poser. Il dit, oui, pas de problème. Il lui pose plein de questions de halakha, etc. L'Admor HaZaken y répond parfaitement, l'autre il est impressionné. Il dit, mais j'ai un problème. Il dit, en vérité, vous et les chassidim, vous êtes des menteurs. Il dit, ah bon? Pourquoi vous parlez comme ça? Il dit, oui, vous êtes des menteurs. parce que vous êtes habillé avec des vêtements grands religieux, grands racides et tout, vous faites comme si que vous êtes des grands, alors qu'en vérité, vous vous connaissez, vous savez ce que vous avez à l'intérieur. Donc vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mettez des vêtements? Pourquoi vous donnez un look, d'accord, qui ne montre pas ce que vous avez à l'intérieur? Comme on dit, l'habit ne fait pas le rabbin. Alors, d'accord? Alors, ça c'est la question qu'il a posée. L'Admour Hazaken, il a posé, comme d'habitude quand il voulait réfléchir, il pose sa tête sur ses mains comme ça, il reste quelques secondes, l'autre il sait pas quoi faire, il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise encore? Après l'Admour Hazaken, il se lève, il lui dit, vous avez raison. Bah oui, à quoi vous avez raison? Il dit, vous avez raison. Mais vous savez sur quoi je me base? Je me base sur une Mishnah. Il y a une Mishnah qui dit dans le traité PA qu'un homme ne doit pas s'amuser à porter des béquilles s'il n'est pas boiteux. Et qu'est-ce qu'a dit la Mishnah là-bas? Elle dit, parce que sinon, il finira par devenir boiteux. Mm-hmm. Elle lui dit, vous avez compris cette Mishnah? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que comme il fait semblant qu'il est boiteux, il finira par devenir boiteux. Ben, il dit, mais moi, c'est la même chose que je fais avec mes chassidim. Je leur dis, faites semblant. Et vous finirez par l'être vraiment. Pourquoi? Parce que quand tu veux quelque chose, tu finiras par l'avoir. Tu fais le boiteux, ben, tu seras boiteux. À Kadosh Baruch Hu, il suit la piste que tu prends. C'est exactement ce qu'on dit ici. Donc ça, c'est un petit peu, moi, je prends cette lettre un petit peu comme des paroles de consolation. C'est un peu, il veut consoler les chassidim, leur dire, écoutez, même si vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant, vous inquiétez pas, avec la volonté, vous y arriverez. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a un deuxième point, et là, ça va chauffer. Deuxième point, je vous ai dit que Admor Hazaken s'est rendu compte qu'il y avait un manque de Avat Israël. D'accord? Bon, là, vous allez voir comment il va prendre des pincettes. Il va prendre des pincettes. Vous savez comment? Ça veut dire qu'il va à chaque fois ramener des références, etc. Il va pas directement aller. Mais les choses qu'il va dire, il va les dire. Pour tout le monde. Ça s'adresse à nous. D'accord? Vous allez voir que c'est des choses qui nous arrivent tous les jours, avec tout le monde. Ça nous arrive à tous. Ve'otzot edrosh mima alatrem. Alors venez, je vais vous montrer maintenant les mots où on est. Alors, on est quatre lignes avant la fin de la page. Donc le premier point était clair, on est d'accord? L'Admour Hazaken demande de se concentrer dans la tefila. Il donne une ségoula. C'est quoi la ségoula pour se concentrer? C'est faire la tefila à voix haute. Et il nous console en disant que même si on voit qu'on n'y arrive pas, si on a la volonté, on finira par arriver parce qu'on est un peuple de gens têtus. Et un têtu, il finit par avoir ce qu'il veut. C'est comme ça. Ok. Maintenant, il dit, ve'otzot edrosh mima alatrem. J'ai autre chose encore à vous demander. Mais là, l'Admour Hazaken emploie le terme demander. Ça veut dire quoi demander? Ça veut dire qu'il est conscient que c'est quelque chose de difficile. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que c'est quelque chose de difficile. Shelo la'ashlir dvaray acharichem, asher arachti siach, liot kol ish, yashar ve'oler betumo, ka'asher asa ha'elokim et ha'adam yashar. Il dit comme ça. Je vous demande une chose. Que chacun pense particulièrement à sa vie, et chacun doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé les hommes comme il faut. Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Velo levakesh cheshbonot rabim. Ça veut dire comme ça. Il dit, malheureusement, ce que les gens font, les gens veulent refaire le monde. Ça veut dire que quand tu vois autour de toi des choses qui se passent pas comme tu penses, alors tu vas dire, mais pourquoi il se comporte comme ça? De quel droit il fait ça? De quel droit il fait ça? Ça veut dire que moi, je pense que la manière comment les choses tournent, c'est pas comme ça devrait tourner. Donc déjà, Admour Hazaken, il dit, écoutez, il dit à Kadosh Baruch Hu, il a bien fait les hommes. Kadosh Baruch Hu, il a bien fait son monde. Et nous, on ne doit pas être là à chercher des cheshbonot. Vous savez ce que c'est des cheshbonot? Cheshbonot, c'est les calculs. C'est-à-dire qu'après, on commence à rentrer dans les calculs. Pourquoi il a fait ci? Pourquoi il a dit ci? Pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qu'il pensait? Comme la comptabilité. Ça va, Yves? Voilà. Mazal Tov. Merci. C'est son anniversaire, Shabbat. J'ai cru que tu allais être là. Oui, il m'a dit Avner. Merci. Salut le Chaim. Anniversaire.
Oui.
Donc, Velo levakesh cheshbonot rabim. Écoutez ce qu'il va dire ici, parce que ça, à mon avis, c'est quelque chose de très important dans la vie. Velo levakesh cheshbonot rabim, me'alilot mitzade gaver, v'marchevot adam v'tarboulotav. D'accord? Ça veut dire, il dit comme ça. Il dit, malheureusement, et c'est vrai ça, malheureusement, on passe une grande partie de notre vie à ne pas penser à nous, mais à penser aux autres. Ça veut dire, t'as vu ce qu'il fait, t'as vu ce qu'il m'a fait, d'accord? T'as vu ce qu'il est en train de faire. On est en train de penser à qui on pense finalement, on pense aux autres. On rentre dans les cheshbonot, et il emploie un terme encore plus difficile, c'est les tarboulot. C'est quoi les tarboulot? Tarboulot, c'est les manigances. C'est-à-dire, tu commences à rentrer dans les détails, à dire, ouais, d'accord? D'accord? C'est plus petit déjà. C'est éthménique. D'accord? Voilà.
Mais c'est
pas
tordu,
ce tarboulot. Non, c'est pas ce l'homme est comme ça.
Généralement, c'est tordu.
Non, regarde, attention. C'est tordu. Il explique, il dit, l'homme est comme ça. C'est la nature de l'homme, c'est comme ça. C'est quand même, depuis qu'on est enfant, enfin, il dit, pourquoi lui, pourquoi pas, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça, c'est la nature de l'homme. Donc c'est pour ça que le Morazagan demande à faire un effort. Il n'est pas en train de casser du sucre sur le chassidim, il dit qu'il y a un effort à faire. Il dit comme ça. Il dit, qu'izom lechet shamaim, velom lechet basar vadam. Calculer ce qu'il y a dans la tête des autres, c'est le travail de Dieu, et c'est pas le travail des hommes. Ça, pour moi, c'est le mot le plus fort de la lettre. On aurait pu fermer le livre. Ouais. Ça veut dire, déjà, un point, tu n'es pas le comptable du bon Dieu. Le bon Dieu, il a besoin de personne. Il peut se débrouiller tout seul à faire les comptes, savoir si lui c'est un rachat, si c'est un demi-rachat. Il n'a pas besoin de toi pour mettre les étiquettes sur les gens.
Oui, un Bet-Din.
D'accord? Attends. Un Bet-Din, c'est un Bet-Din. Il est nommé par un Kadosh Barouh. Souvent, nous, on est là à mettre des étiquettes à lui, orthodoxe, lui rachat, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Dieu, il t'a rien demandé. Dieu, il t'a pas demandé de faire ses calculs. C'est Dieu qui fait ses calculs. Toi, occupe-toi de ta vie et laisse Dieu s'occuper des autres. Donc ça veut dire, il dit en d'autres termes, il faut, je vais expliquer. Ça veut dire, il dit, il faut pas être trop regardant sur ce qui se passe chez les autres. Et sur ce que les autres m'ont fait, et sur ce que les autres pensaient quand ils m'ont parlé. Et ça, malheureusement, on passe une grande partie de notre vie dans ça. Non, c'est pas spécialement l'orgueil, c'est la nature. Qu'est-ce qu'il m'a dit, pourquoi il m'a dit ci, qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. C'est comme ça, on est sociable. Donc, comme on a expliqué Shabbat, donc on calcule, on dit qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il a dit, pourquoi il a fait, etc. Donc, il dit, un premier effort qu'il demande aux chassidim, il leur demande de pas rentrer dans les tarboulottes et de pas chercher à rentrer dans des calculs pour savoir pourquoi il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est le travail de Dieu, c'est pas le travail des hommes. Ule amin, be'emuna shlema, be'mitzvat rachamenu zichonam livracha. Il faut avoir une emuna entière en ce que les chachamim ont dit. Ve'eve, Shfal Ruach Bifne Kol Adam. Dans Pirkei Avot, dans le chapitre qu'on a commencé ce Shabbat, on a commencé le premier Perek. Quand on va arriver au quatrième Perek de Pirkei Avot, qu'est-ce qui est écrit là-bas dans le quatrième Perek? C'est écrit une phrase très forte. C'est écrit Ve'eve Shfal Ruach Bifne Kol Adam. Tu dois te sentir plus bas que tout le monde. Quelque chose de très difficile. Alors là-bas, on en a déjà parlé une fois, mais ça fait assez longtemps. Ça fait pratiquement 4 ans qu'on en a parlé. C'était dans le chapitre 30 du Tanya. Donc ça fait un bout de temps qu'on étudie ça. Et ça fait 4 ans. Ouais. Et là-bas, l'Admor HaZaken, dans ce chapitre-là, il dit, mais comment c'est possible? Comment tu veux que je me sente plus bas que tout le monde?
Disons qu'il faut mettre les autres plus haut que nous.
Ah oui, mais comment tu veux faire ça? Quand tu vois les gens qui font des Averot, tu dis, bon, je veux bien ne pas regarder, je vais tais, j'ai rien vu. Mais ne me dis pas que je suis plus bas que lui. Il faut aller voir un psychiatre. C'est pas normal. Pourquoi tu...
Dis-lui que l'autre, il est plus haut.
Alors, il a expliqué plusieurs points là-bas. D'accord? Dans le chapitre 30.
Objectif.
Chapitre 1, il a expliqué plusieurs points. Il a dit d'abord, tu sais pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre. D'accord? Tu sais pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Tu sais pas ce qui est considéré un effort pour lui et ce qui est considéré un effort pour toi. Ça veut dire que, par exemple, pour toi, tu te dis, mais c'est évident, qu'est-ce qu'il est? Il est Mechalel Shabbat, il fait des Averot, mais c'est facile à se retenir. Parle pour toi, parle pas pour lui. Parle pour toi, ne parle pas pour lui, exactement, oui. Ça veut dire, toi, la balade Mourazakel, dans le chapitre 30, il dit, toi, tu es assis dans un Beit HaMidrash, toute la journée en train d'étudier, tu tombes pas dans le marché, tu vois pas ce qu'il voit. Lui, il tourne toute la journée, d'accord, il parle d'un commercial là-bas. Il voit ce qu'il voit, d'accord, et les yeux, ils tournent, et quand les yeux, ils tournent, le cœur, il désire. Et après, peut-être un effort que lui, il fait, peut-être que ça vaut 1000 efforts à toi. Donc déjà, ne juge pas. Ça, c'est un premier point qu'il dit là-bas. Il dit un deuxième point là-bas aussi, dans le chapitre 30. Il dit, ce que tu dois savoir, c'est que lui, cette personne-là que tu juges, du fait qu'il est ignorant, bien sûr que c'est des avérotes qu'il fait. Mais toi, t'es avérote, étant donné que tu connais la gravité, une avéra à toi vaut 1000 avérotes à lui. Parce que toi, tu connais la gravité. Donc il donne des techniques pour t'expliquer comment, en vérité, quand on réfléchit, tout est relatif. Et que on peut se sentir plus bas, même que le plus grand rachat. Ça, c'est ce qu'il a expliqué là-bas. Maintenant, il va rajouter encore d'autres choses ici.
Là, il l'a pas mis au-dessus de lui.
Non. Il dit, je me sens plus bas que lui. Bah, si.
Non, il ne me parle plus bas. Il ne le juge pas. Il dit, tu viens, mais il ne dit pas qu'il est au
Alors,
plus bas.
Alors, c'est pour ça que j'explique à plusieurs points. D'abord, tu ne le juges pas. Numéro 1, parce que tu te dis, tu ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Numéro 2, tu te dis, est-ce que moi, je fais des efforts sur ce que je l'exige à faire des efforts? Ça veut dire, en d'autres termes, sur ce qui est difficile pour moi, est-ce que je fais des efforts comme ce que j'attends pour lui, ce qui est difficile? Ça, c'est numéro 2. Et numéro 3, lui, étant donné qu'il est ignorant, Akadosh Baruch Hu va lui comptabiliser ses averot comme shogeg, comme si qu'il a fait sans faire exprès. Alors que moi, comme je connais la loi, Dieu va considérer comme si que j'ai fait exprès. Tu vois ce que je veux dire?
Ce qui compte, c'est le différentiel par rapport à son...
Bien sûr. Tout est relatif. Donc avec ça, pourquoi il t'explique ça? Il te dit, regarde, de quel droit tu juges ce qui se passe chez les autres? Tu dis, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a dit ça? Et tu dis, mais attends, de quel droit tu fais ça? Tu sais ce qui se passe chez lui. Mais il n'y a pas seulement ça. D'accord ? Il y a encore quelque chose de très fort que dit la Gemara, là il ramène de la Gemara. La Gemara elle dit qui est tziva milta vetakin pitgama. La Gemara elle a un pitgam, donc la Gemara elle a un proverbe mais qui est très juste, qui dit shekol echad metukan mechavero, que chaque personne est mieux que son ami. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque personne a en soi une qualité que son ami n'a pas. Ça veut dire que personne ne peut dire j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai besoin de personne. Ça n'existe pas. C'est pas possible. La Gemara te dit, d'accord, l'humanité c'est une masse d'hommes et chacun a besoin de l'autre. Chacun, d'accord. Et même celui que tu penses être le plus grand rachat, eh ben tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Si tu vas pas prendre ses services, eh ben tu ne pourras pas être parfait. Pourquoi? Parce que ce qu'il explique ici, il dit en vérité, nous on peut pas être, on peut faire les calculs à la place d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire en d'autres termes, ce qu'il veut dire, c'est très important ce qu'il dit ici. Il dit, vous savez, des fois, hein, on arrive à la conclusion que lui et moi, on ne peut pas communiquer. Bon, tu fais ta vie, je fais ma vie, laisse-moi tranquille, j'ai vu ce que tu as fait, je veux pas parler avec toi. Edmond Razakhen, il dit, des calculs comme ça, on ne fait pas des calculs comme ça. On ne rentre pas dans les calculs de la Kadosh Baruch Hu de dire, lui il est rachat, lui il est pas rachat. Ce n'est pas mes affaires, ça. Moi, je dois essayer de m'approcher de tout le monde et je dois essayer de tirer un enseignement de tout le monde. Dans les mots ici, kol echat metukan mechavero, ça veut dire que chacun a une qualité que l'autre n'a pas. Chacun.
On doit quand même s'éloigner du mauvais voisin.
Non, parce que justement, ce qu'on a expliqué, le Shabbat. Non, justement.
Non, il n'a pas dit ça.
D'accord.
Ça dépend de l'influence de quel côté elle va.
Mais là, je rentre pas dans le mauvais voisinage. Là, je parle d'un autre sujet. Je parle du fait que tu commences à juger. Et que tu dis, lui il est comme si, lui il est comme si, t'as mis les étiquettes, tu vois, et moi, toi tu t'es mis une étiquette. Chacun, on est dans un monde dans lequel on met les étiquettes. Comme, celui-là il est orthodoxe, celui-là il est ultra orthodoxe. J'ai pas compris ce qu'il faut faire pour passer pour changer de gamme, tu vois, lui il est ultra orthodoxe.
D'accord. Il est un peu orthodoxe.
D'où viennent ces étiquettes? Chez nous, dans la chassidout, on a toujours appris qu'il n'y a pas d'étiquette. Que celui que tu crois être le plus grand rachat, il peut être un plus grand tzaddik que toi. Pourquoi? Parce que tout est relatif pour Akadosh Baruch Hu. Tout est calculé relativement par rapport aux efforts qu'il fait. Et donc, ce qu'il dit ici, il dit, qu'est-ce que tu te mets à juger ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a pensé? D'accord? Mais oui! Ça veut dire quoi tu juges? Tu crois vraiment que lui, quand il t'a dit ça, il a pensé, je vais lui faire ça pour lui dire ci, pour lui dire ça? Il a une nature comme ça, et il a des fois des mots qui sortent. Il y a des gens qui ont des natures comme ça. De la même manière qu'il y a des gens qui ont une nature qui sont coléreux, et bien il y a des gens qui ont une nature sarcastique. C'est comme ça. Et il peut pas se retenir de sortir son mot comme ça. Mettre son petit grincé. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas à moi de le juger, de dire, ah, lui, il est comme ci, il est comme ça, c'est un rachat, je veux pas parler avec lui. C'est pas tes calculs, ça. Sache que chaque personne du Ham Israël, t'as quelque chose à prendre, de lui. Donc ça veut dire, si l'Admor Hazaken parle de ça, on a dit que, vous voyez, c'est mamash le même problème qu'on avait, c'est le même problème qu'on avait avec les élèves de Rabbi Akiva. Que finalement, chacun pensait partir d'une bonne intention, disait, je veux convaincre mon ami que la halakha est comme ça, et qu'il a mal compris ce que Rabbi Akiva a dit. Mais finalement, après, à un certain moment, il y a un manque de respect. C'est-à-dire quoi, il y a un manque de respect? C'est-à-dire que tu ne respectes pas l'autre, tu ne respectes pas le fait que toi, t'as une manière de voir les choses, lui, il a une manière de voir les choses, on doit se respecter les uns les autres parce qu'on est indépendants les uns des autres, on est complémentaires les uns avec les autres. D'accord?
À ce point, les 20 000, ils ont fait la même erreur.
Oui. À leur niveau, c'était grave, oui. Oui. Ah oui, mais c'est des erreurs qu'on fait tous.
Oui, mais bon, 24 000 élèves.
C'est les erreurs qu'on fait tous, ça. Se dire que moi j'ai raison et les autres n'ont pas raison. Il dit comme ça.
On veut la raison profonde.
Alors là, il va l'expliquer là, d'accord? Il dit, Uktiv, c'est écrit. Uktiv, c'est écrit. Regarde ce qu'il a expliqué ici. Uktiv, c'est écrit. Kol ish Israël ke ishechat chaverim. C'est écrit dans Shoftim que tout le Ham Israël est considéré comme un homme, d'accord? Chaverim, comme des amis. Alors, le mot chaverim en hébreu, ça veut dire des amis. Mais le mot chaverim, ça vient du terme aussi mechoubar. Mechoubar en hébreu, ça veut dire quoi? Lié. D'accord? Lié. Il dit, c'est pas par hasard. Pourquoi on dit que kol Israël, chaverim? Tous les Israël, ils sont chaverim. Chaverim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont amis? Il dit non. C'est pas seulement qu'ils sont amis, ils sont liés. Pourquoi ils sont liés? C'est une très belle image qu'il dit ici. Il dit, kemo she'ish echad mechoubar mevarim rabim. Il dit, imaginez. D'accord? Une personne a plusieurs membres. Il est mechoubar. Ça veut dire que, finalement, c'est quoi l'homme? C'est une connexion de plusieurs membres. D'accord? C'est-à-dire que c'est plusieurs membres qui sont connectés les uns avec les autres. Et tous ces membres-là font un homme. Donc, c'est plusieurs membres qui sont mechoubar. Plusieurs membres qui sont liés. Ben, il dit, c'est la même chose de l'âme Israël. Il dit, regarde dans le corps. Obéi par dame. Dans les membres. Imaginez, Dieu préserve, qu'il y a un doigt qui s'enlève. Dieu préserve. D'accord? Nogé abélève. le cœur est touché de ça. Pourquoi le cœur est touché? Parce que le cœur, il comprend. Le cœur a mal du fait qu'il y a un doigt qui est enlevé. Pourquoi le cœur a mal? Pourquoi le cœur a mal? C'est deux membres différents. Il y a 248 membres. Pourquoi le cœur a mal quand on enlève un membre? Pourquoi il a mal? Il a mal parce que, bien que c'est plusieurs membres qui sont attachés, c'est devenu, c'est-à-dire c'est chaque membre est distinct, c'est devenu une seule entité. Qui met nous tots otraim, que un corps en bonne santé, c'est pas un corps qui a qu'un cœur et qui a qu'un cerveau. Un corps en bonne santé, c'est un corps qui a tous ses membres. Ça veut dire que même celui que tu crois être un rachat, même si, comme il avait expliqué là-bas, même si tu vas dire que c'est un doigt de pied, lui, tu vois, dans les membres, c'est le doigt de pied, lui. Le rachat, doigt de pied. Même un doigt de pied, quand il décide de te faire mal, il te fait très très mal. Et tu peux pas dire, ah ben, c'est un doigt de pied, c'est rien avec ce gars. Il y a pas. Même un doigt de pied, quand il te fait mal,
Surtout le petit
doigt de pied, celui-là. Là.
Ah, celui-là, il prend un coup, exactement.
Pourtant, qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est ton point faible.
D'accord. Ah, d'accord, mais oui. Pourtant, tu dis, mais attends, c'est le petit doigt de pied. Ça veut dire que c'est un truc, à part quand il te fait mal, tu l'as jamais regardé. Tu sais même pas à quoi il sert. D'accord. Et ben, qu'est-ce qu'on voit? Le fait que quand il va mal, ça te fait mal, ça veut dire que le corps en a besoin. Sinon, il t'aurait pas fait mal. Sinon, le corps veut dire, bon, j'en ai rien à faire. Ça va, c'est un petit rachat, il est au fond, c'est un petit doigt de pied. Laisse-le, c'est pas grave, il a qu'à crever. Non, le corps ne pense pas comme ça. Quand ça a mal, c'est le cerveau qui a mal, c'est le cœur qui a mal, c'est tout le corps entier qui a mal. Pourquoi? Parce que c'est une seule entité. Et ben, de cette image du corps, on va comprendre que c'est la même chose pour le Am Israël. Que dans le Am Israël, même si tu as un membre qui est malade, même si tu as un membre que tu crois être insignifiant, il n'y a aucun membre qui est insignifiant. Et on doit se dire que quand il y a un membre du Am Israël qui est malade, c'est pas seulement lui qui est malade. C'est le corps entier qui est malade. Et moi, j'ai besoin de lui de la même manière que lui, il a besoin de moi. Donc, jamais je peux dire, ouais, mais de toute façon, lui, il est malade, c'est un rachat. Est-ce que tu reparlerais comme ça sur ton doigt de pied, t'aurais dit, ouais, c'est le doigt de pied, il est malade, laisse tomber. Non. C'est à moi, c'est mon doigt de pied, c'est à moi, c'est chez moi. Et ben, c'est la même chose. De la même manière que le cœur n'aurait jamais parlé comme ça sur le doigt de pied, de la même manière, même si tu t'imagines que toi, tu es à la tête et lui, le doigt de pied. Imaginons, tu t'imagines, moi, je suis un grand sadique et lui, c'est un grand rachat. Disons que bon, on va te donner raison. Ça change pas que le doigt de pied, il fait très mal. C'est ce qu'il dit ici. Ouktiv, c'est écrit. Je reprends Ouktiv. Vous avez dans les mots? Alors, on est à la cinquième ligne. Ouktiv, c'est écrit. Kol ish Israël ke ish echad chaverim. Tout le Am Israël sont comme un seul homme, sont des amis. Kemo she ish echad mechubar mevarim rabim. De la même manière qu'un homme est composé de plusieurs membres, obéi par dam noga balev. Et dès qu'un membre, Dieu préserve, va se séparer d'un autre, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait mal au cœur, on a mal. Qui m'y mène au tête de ce trahim? Parce que c'est la vie. Ça veut dire que tous les membres font partie de notre vie. Imken, si c'est comme ça, anachnu eyot kulanu keishechad mamash. Nous, les bénis Israël, nous sommes tous comme un seul homme. Tikon ha'avoda belev. Nous aussi, on doit savoir que jamais on doit penser mal sur un autre juif. Ou miklal hen, d'accord? Valken ou les ovdo shrem echad davka. C'est pour ça que dans le prophète Tzfania, il a insisté beaucoup sur le fait de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est une expression en hébreu qui dit d'une même épaule. Ça veut dire servir à Kadosh Baruch Hu du même corps. Ok. Ve'alken, c'est pour ça. Maintenant, où il va en arriver? Alors là, il va taper un peu sur. Hein. Préparez-vous, il va nous taper un peu là. Ve'alken, c'est pour ça. Donc bon, on a compris le problème. Là, le problème, on l'a compris. Il nous a expliqué le problème. C'est que on n'a pas le droit de penser mal sur les autres et que quand on pense mal sur les autres, finalement, c'est comme un membre qui pense mal sur l'autre. Ve'alken, c'est pour ça. Ahuvai Yedidai, mes amis, d'accord, mes bien-aimés. Na vena, je vous en prie. Il répète deux fois. Na en hébreu, ça veut dire, comment ça veut dire quoi na en hébreu? Ana Hashem Oshi Ana, ça veut dire quoi na? Na, c'est s'il te plaît. Ça veut dire, je vous en supplie. Deux fois, il répète. Litroar bechol levenefesh. Je vous en supplie. Fatiguez-vous avec la volonté que vous avez. Velitkoa ahavat reu belibo. De tout faire pour avoir l'amour de son prochain dans son cœur. Ve'ish edra adreu al tarchevu bilvafrem ktiv. Ne pensez jamais du mal sur vos frères. Velo ta'ale alev leolam. Non seulement que vous n'allez pas en parler, mais même pas il faut que ça vous vienne dans ça vous vienne à l'esprit. Ve'im ta'ale, on est humain. Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un il m'a fait quelque chose. Je vais être honnête, la vérité ça m'a dérangé. Alors qu'est-ce que je fais? Ve'im ta'ale. Et si ça monte à mon esprit, c'est-à-dire quelqu'un il m'a fait quelque chose et je sens un sentiment de haine qui commence à arriver. Je vais m'arrêter un peu plus sur ça parce que ça c'est un point important qu'il explique ici. On n'est pas en train de dire ici qu'on ne doit pas se vexer. C'est pas ce qu'il a dit. C'est normal qu'on peut se vexer. C'est normal qu'on peut se vexer parce que si on se vexe pas, ça veut dire au contraire qu'on est indifférent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le doigt de pied fait mal, c'est normal que le corps a mal. C'est normal que le corps a mal. Ça, c'est normal. Quelqu'un, par exemple, qui te parle mal, qui te dit une mauvaise parole, bien, tu vois quelqu'un qui se comporte mal. C'est normal que ça te vexe, que ça te fait de la peine. Jusqu'ici, tout va bien. À quel moment il y a un problème? C'est quand tu commences à développer un sentiment de haine.
De la rancœur.
De la rancœur. Fais plus que le voir en peinture. Là, c'est un problème. Est-ce que vous voyez la différence? C'est bon? Tout le monde est là? David, ça, un petit léchaïl, il faut. Pour réveiller les cœurs.
C'est Marcel qui sert.
Il va y avoir deux heures là-dedans.
Là, je vais te dire, c'est pas long. Marcel, prends les chaïms.
Mais soif, Marcel. Hein.
Servi les chaïms à tout le monde, Marcel.
Tu as la bouteille.
Marcel. Chauffe, Marcel, chauffe.
Non, le seul qui ne voit pas, tout le monde en parle.
Ah, t'as pas le
temps. Le seul qui
ne
voit pas, tout le monde en parle.
C'est bizarre, non? C'est bizarre.
Celui qui sert, il ne doit jamais voir.
Il faut goûter le...
Il faut reconduire.
Le sandwich qui conduit.
Merci, merci. Boire ou conduire, voilà.
C'est comme les dealers. Il ne faut jamais se droguer.
Dealer.
Hein? Eh ben oui.
S'il veut vivre longtemps, c'est mieux qu'il ne drogue pas.
Les dealers, ils prêtent jamais, eux.
C'est
sûr.
David, tu as parlé cette année.
Il est servi, M. Cohen, ou mon père?
Non,
il est servi, Youssef.
Non,
il
est
servi, Youssef.
Il ne boit pas, il ne mange pas.
De bonnes nouvelles.
Ça, il va manger.
Tiens, prends.
Youssef, tu veux pas un casse-croûte? Ouais.
Non, merci. Ah, il s'est mélangé avec du Sprite.
Alors,
tu ne l'as pas dit,
Chaim à tous, que Kadosh Baruch Hu nous aide d'avoir un Avat Israël comme il faut. Chaim, Chaim. Donc je reprends. D'accord? Je veux qu'on développe un petit peu ce qu'il est en train de dire ici. Quand on lit ce Pérec, on peut avoir l'impression que ce que l'Admor HaZaken nous demande de nous ici, c'est quelque chose qui est abstrait. D'accord? On peut avoir l'impression, par exemple, au début, il nous a parlé de la tefila. Il a dit, bon, la tefila, la kavana, la volonté, il faut prier longtemps, à voix haute, etc. Bon. Après, il te dit de ne pas avoir de sentiment de haine. C'est impossible. Qui n'a jamais eu de sentiment de haine ou de sentiment de rancœur? C'est un sentiment humain. Comme on a expliqué tout à l'heure, c'est un sentiment que même des enfants, ils ont. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié à la nature humaine. C'est là que je vais expliquer encore une fois ce qu'on dit ici. On n'est pas en train de dire ici que quand quelqu'un il t'a fait une crasse, quand quelqu'un il t'a embêté, quand tu vois quelque chose qui se passe chez quelqu'un, quand tu vois quelqu'un faire une avéra, que ça doit pas te déranger. Bien sûr que ça doit me déranger. Ça doit me déranger, c'est normal que ça me dérange.
D'accord?
Il me fait mal, ça me fait mal. Surtout quand c'est un ami. D'accord? Surtout quand c'est quelqu'un qui est proche. Comment ça se fait par exemple que quand notre femme va nous faire des fois une remarque, ça peut nous blesser? Parce que c'est quelqu'un qui est proche. Quand c'est quelqu'un qui est proche, ça blesse. C'est normal que ça blesse. Si ça blesse pas, c'est un problème. Seulement, d'accord? Où arrive le problème? Où arrive le problème? Le problème arrive quand on va commencer à développer un sentiment de haine. Vous savez ce qui se passe? Ça, c'est les développements dans un autre endroit. Il dit que, au début, tu réfléchis. Tu dis, il m'a dit ci. Et plus tu réfléchis. Après, tu en parles aussi. Mais déjà, tu réfléchis. Progressivement, tu crées un sentiment de haine. T'as la haine. D'accord? Tu peux plus supporter la personne. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave.
La preuve, d'accord, des années plus tard, t'es toujours caché, c'est
plus on avance, et plus tu avances, plus tu avances, et plus le sentiment de haine arrive. C'est pour ça qu'il dit ici, comme ça. Il dit, jamais on doit penser du mal sur un frère juif. Jamais. Que tu sois vexé, c'est une chose. Que tu ailles le parler, c'est une chose. Tu lui dis, écoute, tu sais, tu m'as blessé, etc. Ou bien même que tu sois blessé, c'est une chose. Mais que tu penses du mal sur une personne, ça, il faut pas le faire. Parce que, on doit imaginer un frère juif, c'est très dur ce qu'on demande ici. On doit imaginer un frère juif comme un membre de son corps. Et un membre de son corps, même quand il fait mal, jamais on va le haïr. C'est déjà arrivé, par exemple, qu'une personne, il va haïr son doigt de pied parce qu'il lui fait mal? Non!
Mais si lui-même, il t'a fait du mal, est-ce que tu peux... De quelle manière tu peux l'accepter? Alors,
c'est ce qu'il a dit ici. Est-ce qu'on est dans les calculs de Dieu? Est-ce que tu sais...
Mais là, tu dis d'avoir de la rancœur, ça amène la haine, mais ouais. Si le gars t'a fait du mal...
Attends, deux secondes.
De haine, pas de
qu'est-ce que t'en sais qui t'a fait du mal, deux secondes?
Non,
Qu'est-ce que t'en sais qui voulait te faire du mal?
Il y a certains trucs dans la vie.
Mais peut-être des gens, c'est leur nature.
Ouais,
ils sont nés comme ça. Ils sont sarcastiques. Ils sont comme ça. T'as des gens qui sont comme ça. T'as des gens qui sont nerveux.
D'accord, mais il y a des.
Et qu'eux-mêmes, ils regrettent. Tu crois qu'ils aiment avoir des ennemis?
S'il n'est pas juif, ça va?
Quoi? On va s'arranger avec les juifs déjà. Tu crois qu'ils aiment ça?
Je peux pas comprendre ça.
On a tous nos défauts. On aime les avoir. une personne, par exemple, qui a un défaut, qui est nerveux, il regrette après, parce qu'il sait que sous l'emprise de la colère, il peut dire des choses.
Alors, imagine que tu reviennes plusieurs fois vers la personne et que la personne, à chaque fois, elle te rejette. Et puis,
alors, au bout d'un moment, que ça te blesse, c'est une chose. Que tu prennes tes marques, d'accord, c'est une chose. Écoute, non, je veux que ce soit clair, d'accord. Que tu prennes... Des fois, il y a des gens, tu sens avec qui, que tu sens qu'il faut prendre un peu de recul. Bah, toi, accepte ça. D'accord. Tu sens que chaque fois qu'on est ensemble, il faut prendre un peu de recul parce que c'est en train d'aller n'importe où, n'importe comment. Et ça, la Torah accepte ça. Seulement, à quel moment il y a un problème? C'est quand dans ta tête tu as un sentiment de haine. Et ça, il n'y a que le cerveau qui peut faire ça. C'est le cerveau qui réfléchit, qui a vu ce qu'il m'a fait, pourquoi il m'a fait ci. Et plus tu réfléchis, et plus tu as un sentiment de haine. Alors qu'en vérité, l'autre, il a une nature comme ça, il se rend même pas compte. Il se rend même pas compte. Bien sûr qu'il se rend compte, qu'il se rend pas compte. Mais ça veut dire que c'est un défaut qu'il a chez lui. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il prévient. Il dit, on n'est pas dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les calculs. Mais moi, de dire, oui, c'est un rachat, il aurait pu se retenir, moi, je me serais retenu. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Oui, toi, t'aurais pas fait comme ça. Mais toi, dans d'autres avérotes, tu serais tombé. Chacun son état. Il faut une grande force de caractère. Mais je peux vous dire quelque chose. Que quand on arrive, j'ai déjà essayé quelques fois, hein, je peux vous dire. Parce que c'est une lettre très
connue. C'est une chose. Sans avoir la haine, tu poses.
Ouais, voilà, quelqu'un te
doit. C'est une lettre.
Haine,
oui, pareil.
Je te parle plus, j'ai pas d'aide.
C'est des natures. Il a une nature. C'est un emprunteur qui paye pas.
C'est sa nature.
J'ai pas dit que c'est bien ce qu'il a fait. J'ai pas dit ça.
Non, tu peux ne plus parler à quelqu'un sans avoir la haine. Tu peux dire parfaitement.
Bien, écoute, bon. Prends distance.
S'il vient te parler, je te parle pas.
Non,
c'est pas de la haine.
Je t'ai pas dit ça.
Non,
je l'ai pas dit,
non. Il faut prendre des fois, non. Des fois, quand tu, des fois, il faut prendre un peu de recul. Voilà, après, pour revenir après, prendre un peu de recul, c'est acceptable, ça. Prendre un peu de recul. Le problème, c'est quand on a un sentiment de haine. C'est très compliqué, ce qu'il dit ici, mais une chose, je peux vous dire, c'est que quand on arrive à le faire, on vit heureux. T'as plus rien qui te dérange.
Pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient de la haine entre eux?
D'accord. Non. Les élèves de Rabbi Akiva, c'était une autre nuance. C'est pas de la haine qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient un manque de respect. C'est une autre variante.
Pourquoi il nous parle de ça dans cette lettre?
Non, là, c'est moi qui ai rajouté les élèves de Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, c'est... parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'à force... C'est que quand tu penses... Non, c'est pas de la haine gratuite.
Tout le monde parle de ça, en fait.
C'est pas de la haine...
Oui, nous, on parle d'amour au départ.
Oui, mais c'est de l'amour, mais après, avec comme chacun pensait avoir raison, donc il se battait avec l'autre pour dire c'est moi qui a raison, et donc du coup après il y a eu un manque de respect.
Et pourquoi la Mourazaké nous met en garde contre ça?
Eh ben parce que justement il parle au chassidim, parce qu'il s'est rendu compte que chez les chassidim il y avait un problème. Dans les communautés il y avait un problème que des fois il y avait un manque de Ahavat Israël.
Oui, un manque d'amour.
Oui, un manque d'amour ou de la haine.
On ira à la haine quand même, c'est beaucoup. Ouais.
Mais c'est très facile la haine. C'est très facile la haine. Ouais. Bien sûr, c'est très facile.
Haine, c'est le contraire total de l'amour.
Mais attends,
c'est
pas
très facile.
Vous, d'accord.
Tu veux que je te fasse montrer?
Non, pas de la rage, pas de la haine.
La rage, qu'est-ce qu'il y a avec la rage?
T'as jamais eu de la haine contre personne? Hein?
La haine, pour moi, la haine.
Tu lui en veux à mourir? Jamais? Jamais personne t'a blessé?
Si, sûrement, mais bon.
Mais quoi, mais bon? Donc jamais personne t'a blessé. Je te souhaite pas.
Mais la haine, ça veut pas dire.
Mais c'est pour ça qu'on a du mal à se.
Ah, moi la haine, c'est pour ça qu'on a
un tuteur.
Oui, c'est pour ça que je dis que tu peux non plus parler à quelqu'un sans avoir de haine.
Tu sens que
tu peux pas lui parler, mais t'as pas de haine.
Ouais, bientôt.
J'ai compris, mais quelqu'un qui t'a fait une crasse.
Bonjour, bonsoir. Tu t'es.
Non, mais c'est ça. Tu as de la déception. Ça nous fait peur.
C'est comme ça.
Déçu, ça, c'est pas.
T'as un tzadik alors, qu'est-ce que je dis?
Non, c'est pas ce que je dis ici. La haine, c'est le contraire viscéral de l'amour.
Quand je dis la haine, c'est penser du mal sur son frère.
Ah, c'est pas tout ça.
D'accord? Bah oui.
C'est pas la même chose, c'est pas la même définition.
Après, c'est des variantes, ça, mais. Toi, tu vois le mot la haine dans le sens, si je pouvais payer un meufier pour le tuer, je l'aurais fait. Je sais pas ce que j'ai dit. D'accord?
Il a coupé son chapeau à Barack Obama.
Voilà, exactement.
Pour y faire un Arafat.
Alors, non. Ne regardez pas le mot la haine. Chers amis, ne regardez pas le mot la haine comme un mot tellement péjoratif. Le mot la haine, c'est penser du mal de quelqu'un.
C'est du mépris.
D'accord, du mépris. Ah, d'accord.
Il y a,
Oui, d'accord. Ça peut ne pas être.
Ça peut se développer en haine. Ça peut se développer en haine. Alors, ce qu'il dit, c'est comme ça. Il dit. Ve'imta'ale, d'accord ?
On parle d'un juif qui sait de la haine.
Oui, je sais qu'on parle d'un juif. Justement, ce que veut dire cette haine-là, tu ne pourras pas l'avoir.
Est-ce que tu penses du mal de lui ?
Non, c'est pas de la haine.
Non, mais on peut le tuer.
Mais lui, pour lui, le mot haine, c'est.
Tu es vexé, tu es blessé. Mais est-ce que tu penses du mal de lui ?
Devant toi, si tu.
Oui, tu peux penser du mal.
Il faut être honnête. Donc,
le haïr, c'est vraiment l'extrême.
Le haïr, tu sais quand ça vient, la haine ? La haine, ça vient quand tu as beaucoup pensé au fait au mal qu'il t'a fait.
Il emploie ce mot dans la lettre.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais c'est des termes connus, ça. C'est des termes. À force de penser au mal qu'une personne t'a fait. D'accord ? T'as une rancœur, oui, t'as une rancœur très profonde. D'accord ?
Si vous voulez,
il y a une
Il y a des fois des gens oui, des gens non. D'accord ? Si vous préférez le mot rancœur, on va dire le mot rancœur. Mais bon.
Parce que c'est important. C'est-à-dire que tu en as qui, dans ce cas de figure,
Je ne parle pas de juifs.
C'est ça, voilà.
C'est des personnes vraiment. C'est ça, là, devant moi.
D'accord, non. Il semble dedans.
Je lui rends qu'il a pensé là.
Le fait même de penser. D'accord ? Le fait même de penser du mal d'un frère juif, c'est déjà un problème.
C'est la rancœur, c'est pas de la rancune.
Donc tu veux ?
C'est pas un juif.
Le fait même de penser du mal d'un frère juif. J'ai dit, est-ce que le cœur, il aurait pensé comme ça sur le doigt de pied ?
Alors comment on fait par d'accord. exemple, dans l'exemple qu'il a donné, il a donné un exemple où c'est un monsieur qui est connu pour ne pas payer ses factures.
D'accord.
Tout le monde le sait, il n'y a qu'un imbécile qui ne le sait pas, il lui a prêté de l'oseille.
Et il s'est fait avoir.
Et il te dit, c'est pas d'accord. moi qui dois de l'argent.
Il y aura toujours un pigeon qui va tomber. Alors écoute, il va parler de ça, d'accord. Allez, rabotez, on se concentre comme ça on finit le pérec. Il dit comme ça, il dit... Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on te demande ? On te demande de ne pas penser de mal sur qui que ce soit. D'accord ? De ne pas penser. V'im ta'ale, et si maintenant j'ai une pensée qui me vient à l'esprit parce qu'on est humain, quelqu'un qui m'a fait du mal, ben j'y pense, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne peux pas y penser. Bien sûr que j'y pense. J'y pense. Il te dit, yedofena melibo keindof ashan. Il doit repousser cette pensée de son cœur, parce qu'on ne peut pas maîtriser ses pensées. Une pensée qui arrive, elle arrive. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, on peut maîtriser de repousser la pensée. Ukmo marchavat avodazara mamash. Tu dois la repousser de ta tête comme une pensée d'avodazara. Imagine toi tu passes à côté d'une église, Dieu préserve, et que t'as une pensée qui dit tiens peut-être je devrais rentrer voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis mais attends, pas penser à ça. Tu dis mais chas v'shalom, on pense pas à des choses comme ça.
Moi j'ai appris depuis petit de cracher quand.
D'accord.
Ouais, c'est... De quoi
on crache pas.
Non, on rentre pas. Depuis petit moi. Façon de dire.
Alors. Donc, imaginez, bon messieurs, on va rester concentrés, je veux qu'on arrive jusqu'à la fin du raisonnement. Imaginez une personne comme ça qui passe à côté d'une avodah zara et tout d'un coup il a une marchava, il a une pensée qui lui dit viens on fait avodah zara. Comment il va réagir ? L'idolâtrie ! D'accord ? Qu'est-ce qui... Imagine-toi une personne, non, une personne comme ça en plein milieu de la journée, il a un truc, il dit tiens, j'aimerais voir ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se reprendre tout de suite. Deux secondes, il va se reprendre tout de suite, il va se dire mais attends, stop la pensée. Stop, il va tout faire pour repousser cette pensée parce qu'il va se dire c'est très grave. Eh ben il dit tu dois faire la même chose quand tu te mets à penser du mal sur quelqu'un. Tu dois la repousser comme dire stop, arrête de penser. Et on maîtrise. Et regardez ce qu'il va dire ici. Il va dire ici quelque chose de très méchant. Ki gdola lashonara ki neged avodazara vegilu yarayot ou shfichut damim. La Gemara elle dit que faire du lashonara. Et donc, le lachonara, ça peut être, donc, la lachonara, c'est d'abord avec la parole, mais là, c'est une variante du lachonara, c'est dans la pensée. Ça veut dire, tu penses du mal sur quelqu'un. C'est plus grave que l'idolâtrie, l'adultère et le meurtre réunis. On est tous des meurtriers ici, hein.
La chaise électrique, hein.
Ce qu'il dit, c'est la Gemara qui dit ça. Gemara d'Avodazara.
Quoi, la pensée, la mauvaise pensée?
Non.
Que le lachon hara, le lachon hara, c'est aussi grave que les trois en même temps. D'accord. Et les psukim. D'accord.
Tu fais l'idolâtrie et
alors.
En même temps, c'est plus grave.
Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est pas plus grave juridiquement. Bien sûr que juridiquement, quand on arrivera en haut, c'est pas plus grave. C'est sûr que non. Je parle pas juridiquement. Parce que dans une avéra, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'on va me juger, c'est-à-dire le poids qu'a la Vera par rapport au jugement, mais il y a aussi l'impact que la Vera a fait sur moi. et l'impact que le Lashon Hara fait sur une personne, l'impact que peut, comment ça peut tuer une personne de l'intérieur, le fait de penser du mal sur une autre personne, ça le détruit encore plus que le meurtre, l'idolâtrie et l'adultère. Pourquoi? Parce que ça le détruit une personne de l'intérieur. Ça lui enlève toute la sensibilité divine. Ça le détruit, après il pense qu'à ça. Il dit, Vegam bediburkar, ugvar noda, le chol chacham lev, itron ercher amarchava la dibur. Alors là maintenant il va dire encore un truc, ça c'est le mot de la fin. Il va dire, il y a des gens qui pensent, ils vont dire, écoute, la shonara, je parle pas, mais j'en pense pas moi.
Ça, d'accord. Plus,
alors voilà, exactement. J'en parle pas, mais j'en pense pas moi. Donc il va dire, ça va, au moins je me suis retenu, j'ai pas parlé. Eh ben il y a un grand problème. Pourquoi? Écoutez bien. Alors bien sûr que juridiquement, d'accord, juridiquement, tant que t'as pas dit, t'as pas fait la vera et la shonara. Mais l'impact que va avoir une avera, il dit comme ça. C'est très fort ce qu'il va dire ici. Il dit que l'impact que va avoir une pensée est beaucoup plus forte que l'impact d'une parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est vers l'extérieur. Tu dis quelque chose, la parole est sortie, après c'est fini, c'est sorti. Mais quand c'est une pensée, c'est à l'intérieur et ça reste à l'intérieur. Et tant que tu décideras pas de le faire sortir, il restera à l'intérieur. Et ça te trotte, et ça te trotte, et ça te trotte. Ça détruit de l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Il dit la Dvora Zaken, il dit, les gens, ils font attention à ce qu'ils font. Ils font attention à ce qu'ils disent aussi. Mais ils font pas très attention à ce qu'ils pensent. Des fois, il dit, bon, ça va, c'est pas une avéra, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fait une crasse, je pense à la crasse qu'il m'a faite. C'est pas de ma faute, il m'a embêté, je pense qu'il m'a embêté, j'ai rien fait. Et ben, il dit, le fait d'y penser, ça va te ronger de l'intérieur, et ça va te tuer encore plus qu'une avéra que t'aurais fait avec tes mains. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur et ça reste à l'intérieur. D'accord? Ça stresse la personne, il est pas lui-même, il est complet. Pourquoi? Parce que, haine l'étove. D'accord? Haine l'étove, mais haine les moutaves. Oui?
Vaut mieux l'exprimer ou le garder?
J'ai pas dit ça. Il faut ni le penser, ni l'exprimer.
Non, mais si ça reste à l'intérieur, faut mieux.
Tu sais, à force de faire que penser.
Faut pas le garder. Il a dit.
Je vais donner un exemple. Tu sais, quand une personne s'énerve, il dit quelque chose, il dit ce qu'il a à dire, après il se calme. D'accord? Il a dit, il s'est lâché. Ah, il sent bien, il s'est. Mais quand une personne ne parle pas, ça reste dans sa pensée. Jamais il fera ce soupir. Ah, je me suis lâché. Ah, m'a fait du bien. Jamais il aura ça. Parce que il se parle à lui-même. Et plus il parle, et plus ça augmente. Et ça le lâche pas. Ça le tue de l'intérieur. J'ai pas dit ça. La seule solution, Rabotai, c'est de repousser la pensée le plus tôt possible.
C'est de ne pas penser.
Attends, pense à autre chose.
Est-ce que tu repousses la pensée?
Parce que ça coûte très cher. Tu ne penses pas à ça, tu penses à autre chose. Fais comme si c'était une pensée d'Avodah Zara.
Est-ce que tu vas parler? Tu vas devoir l'exprimer.
Non, on n'a pas le droit, c'est la Shonara.
Bon, en même temps, celui qui est obligé de la Shonara, c'est qu'il l'a mérité.
Quoi?
Celui qui est obligé de la Shonara,
c'est qu'il l'a mérité. Non, c'est Shonara. On peut parler comme ça.
J'ai revu le. Je
fais
un autre.
D'accord. Et donc, haine les toves, haine les moutaves.
La victime, il mérite.
Rebranchez-le.
Vas-y, allez voir un psychologue. Il parle.
Pourquoi pas? Parce que. Le problème qu'on a avec la pensée, parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on pense et qu'on dira jamais. Il y a plein de choses. Tu dis, bon, je me retiens, je me tais. Excusez-moi du terme, je me la ferme. D'accord? Tu dis, bon, je garde à l'intérieur, je dis rien. Mais le problème, c'est que ça reste à l'intérieur. C'est très bien de ne pas avoir dit. C'est très bien de ne pas avoir agi. C'est-à-dire, ni le gars, ni il a décollé une droite, ni il a réagi verbalement. Mais à l'intérieur, ça bouille, d'accord? Eh ben, la seule chose qu'il doit faire, il faut zapper. Il faut zapper.
Il faut s'habituer. Je sais plus de quoi on parle exactement. Il faut s'habituer à, là, en l'occurrence, c'est d'aimer son prochain.
Oui, mais comment tu veux faire?
C'est ça l'antidote.
Mais il n'y a pas d'antidote.
Si tu t'habitues à aimer ton prochain, c'est l'antidote.
Non, c'est pas ce qu'il dit ici. Tu peux pas, il t'a fait une crasse. Qu'est-ce que tu vas l'aimer?
Peu importe.
Il faut pas y penser.
Hein? Là, tu vas développer.
Le?
Je vais m'en mettre une. Je vous en voudrais pas pour autant parce que, on s'habitue.
On a mangé à tous. Ouais, ça fait encore un coche à 10 ans.
Je vais pas attendre l'autre jour, j'ai pas dit ça, mais.
Ouais.
Gandhi.
D'accord.
Mais on l'a expliqué, ça.
Donc.
On va dans un autre sujet, mais c'est ça.
Il est pas en train de dire ici que tu dois te mettre à l'aimer. Ça, on n'est pas allé jusqu'à là.
Ah ouais.
Mais si.
Non, parce que t'es pas prêt pour
aimer
ça.
Son prochain comme soi-même.
Oui, mais j'ai compris, mais ça, c'est très joli, ça. Mais concrètement.
Quand t'as.
Ça, c'est l'idéal, ça. C'est l'idéal d'arriver là.
Mais il faut rester là-dessus.
Mais là, maintenant, tu es dans une situation, quelqu'un t'a fait une crasse. t'es en train de bouillir à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais?
Jamais s'en sortir.
Tu vas dire, ah, je l'aime, je l'aime, je l'aime.
Ça, c'est le monde des bisounours.
Sinon, il se fait amputer le pied, il va boiter après. Non.
À un moment, le Tsar, il dit, laisse-moi tranquille, où je l'aime? Qu'est-ce que je l'aime? Je l'aime.
Tu peux t'en mettre une deuxième, si tu dis.
Ben oui.
Parce qu'il dit,
mais c'est t'entends pas l'autre jour.
C'est ton frère juif, tu dois pas avoir une
vie. Ça change moi.
La seule pensée que tu peux avoir, c'est de l'aimer, quoi qu'il
arrive. L'Admorazaken ici n'est pas. L'Admorazaken n'a pas dit ça.
On n'a pas dit, c'est facile.
L'Admorazaken n'a pas dit ça ici.
Je te fais le chèque, y a pas de problème. Le bon Dieu va m'envoyer le.
C'est pas ce qu'il a dit.
Non, qu'est-ce que c'est toi que le bon Dieu m'envoie le.
Tu sais.
Je vais faire un deuxième impayé.
Je vais même t'expliquer, je finirai avec ça, d'accord?
Mais attention.
Je vais finir dans les mots, après je vais rajouter encore autre chose. Vachem atov amvarech etamo bashalom, yassim alechem shalom vechaim adolam, ke nefesh oav nafsham milev vanefesh. Donc après, il donne la bracha au chassidim, que Kadosh Baruch Hu mette le Avat Israël chez le chassidim. Je voudrais répondre à ta question de seconde. Tu sais, le Tzemar Tzedek qui disait comme ça. Il disait, quand une personne a fait une avéra, et qu'après qu'il fait la avéra, il pense, dans sa tête, il se dit, j'aurais pas dû faire la avéra, c'est très grave, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça? Eh ben, c'est ça ce qui le fait tomber. Pourquoi? Parce que le fait de penser à la chose, tu y penses déjà. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Tu as une personne maintenant, tu as une personne qui t'a fait une crasse. D'accord? Il t'a fait une crasse. Donc, tu as une pensée qui vient à l'esprit, qui dit, ah, pourquoi il m'a fait ça? Tu te reprends, qu'est-ce que toi tu dis David? Tu dis, bah c'est pas grave, je vais me dire, il faut que je l'aime, mais pourquoi j'ai la haine? Il faut l'aimer. Mais concrètement, t'es en train de penser à ça. Donc ton cerveau, il est occupé avec ça. Donc puisque ton cerveau, il est occupé avec ça, c'est très possible que le Yetzahara, il va réussir à te faire reprendre, que du coup, tu vas dire, oui mais attends, mais je l'aime pas, il m'a fait ci. Mais ça veut dire que du coup, tu rebiffures tout de suite. C'est-à-dire que des fois, il n'y a pas de solution, la seule solution, comme il dit ici, c'est de repousser la pensée. Tu dis, je pense à autre chose maintenant. Zap, passe à autre chose. Après, on réfléchira à ça après. Parce que le fait même de penser, même de dire, bon, peut-être c'est pas si grave, etc. Le Yetzahara, il va revenir à la charge, il va dire, oui, mais c'est grave ce qu'il a fait. Et après, tu te rends pas compte, 10 minutes plus tard, t'es en plein en train de penser. C'est pour ça qu'il dit ici, la solution qu'il donne ici, il dit, que quand on sent qu'on est en train de penser du mal sur quelqu'un, il faut repousser la pensée de son cœur. Alors, je sais pas si on va réussir à chaque fois, mais même si on réussit 1 fois sur 10, c'est déjà pas mal. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on retient du cours d'aujourd'hui? Plusieurs choses. Tout d'abord, il a parlé de l'importance de faire la tefila. La tefila avec Kavana en disant à voix haute. Il nous expliquait un point très important, et c'est ça ce qui fait le rapport avec le deuxième point, que quand on veut quelque chose, on finira par l'avoir. D'accord? Têtu, exactement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'il a expliqué, il a dit, il faut faire tout pour faire Ahavat Israël, pour avoir l'amour du prochain. C'est quoi l'amour du prochain? Ça veut dire ne jamais penser quelque chose de mal sur un frère juif. J'ai pas dit de pas être vexé, ça on l'a pas dit. J'ai pas dit de l'aimer, ça c'est encore autre chose. J'ai dit au moins déjà de ne pas penser à quelque chose de mal. Donc, dès que t'as une pensée mal qui arrive, tu l'enlèves. Pourquoi? Il a expliqué, il a dit parce que qui on est nous? De quel droit on fait les calculs de la Kadosh Baruch Hu pour dire lui il est un rachat et lui il est comme ci, lui il est comme ça. Ça c'est pour un Kadosh Baruch Hu. Et un frère juif c'est comme un membre de mon corps. Et un membre de mon corps, jamais je peux le haïr. C'est un membre de mon corps et même quand il est malade, je m'occupe de lui. Parce que c'est un membre de mon corps. Donc jamais on doit arriver à la haine. Et si on sent qu'on arrive à des sentiments comme ça, on sent qu'il y a des choses, ça te monte à la tête. Voilà, ça monte à la tête. Tu sens que tu vas, tu dis rien, tu parles rien, mais dans la tête, ça explose. Eh ben, il faut repousser la pensée. N'essaye pas d'être là à récupérer la pensée, à dire non, en vérité, il a fait du bien à Avat Israël. Non. Parce qu'après, les tsars, ils te font retomber. Il dit, ah, mais non, en vérité, il m'a fait ci. Il faut arrêter d'y penser. D'accord? C'est pour ça. Quand tu vois à la maison que ça commence à monter, tu vois que c'est quoi la solution? Ou tu te tais, d'accord, tu arrêtes d'y penser, d'accord, ou tu prends ton manteau, tu fais un tour, d'accord, d'accord, oui mais ça change quoi de dire qu'elle a raison si tu penses qu'elle a pas raison?
Non, mais c'est ça.
Mais t'as rien gagné, dans ta tête tu boues.
Oui, mais ça c'est.
Ben c'est pas bon. Carpette. Pourquoi tu sors? Pour prendre de l'air. Parce qu'il y a des gens, ils sortent pour penser à ce qui s'est passé au calme. Non, tu sors pour prendre de l'air pour penser à autre chose.
Si tu sors et elle ne te rattrape pas, t'es énervé parce qu'elle t'a pas rattrapé. Laisse partir.
Voilà. Bon.
Bon, mais écoute.
Vas-y.
L'histoire s'est passée 2 heures dehors.
L'histoire recommence.
Allez.
Tu dis, quelqu'un te fait une crasse. Tu dois pas lui dire. Ou tu dois prendre une certaine distance.
Non, j'ai pas dit que tu peux lui dire.
Non, pardon. Ah. Tu dis, il vaut mieux ne pas.
Ne pas parler sans lui.
Non, non, j'ai dit ne pas parler de mal.
Chasser la pensée.
Ne pas parler de mal.
Tu chasses la pensée. Tu prends une distance. Tu es d'accord?
Tu peux lui parler, si tu peux lui dire, écoute, ça m'a blessé.
Il y a quelque chose qui va te gêner.
Bah oui. Donc
tu vas non, attends. Il n'y a pas un problème de tirer les affaires au clair. C'est très difficile. Ah bah oui. Tu me dis ni d'agir, ni d'en parler de mal. Ça veut dire ni de lui dire pauvre imbécile, tu te dis tu te tais, d'accord, et ni de le penser.
Tu vois, il connaît pas l'histoire.
Mais ça c'est impossible.
C'est-à-dire tu vois une phrase du style, mais quel imbécile celui-là, et on te dit c'est pas bon.
Je ne connais pas, tant pis.
C'est un problème.
On fait Zimoun.
Bien sûr. Allez. Bon, allez.